France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le 6 janvier dernier, lors de la conférence des ambassadrices et ambassadeurs à Paris, le président Emmanuel Macron s'inquiétait des différentes ingérences dans le monde politique et plus particulièrement de la part d'Elon Musk, patron de SpaceX, fondateur de Tesla, milliardaire libertarien de 53 ans, qui demande la démission d'Olaf Scholz en Allemagne, lance-t-il via ses tweets sur X. Mais Elon Musk est-il si influent dans l'échiquier de la politique européenne? Peut-il faire changer les élections en Allemagne? Peut-il réellement déstabiliser l'Europe? Et existe-t-il, surtout comme l'affirme Emmanuel Macron, une internationale réactionnaire? Pour en parler, j'ai le plaisir, comme chaque mercredi d'ailleurs, de mener cette interview avec Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1 et nous recevons tous les deux donc à ce micro Jean-Yves Camus. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste de l'extrême droite. Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
On n'ose plus quasiment défendre l'état de droit, la démocratie, ce ne serait plus à la mode. Et il y a une espèce de fascination mortifère pour l'international des réactionnaires. Alors ils sont très forts, ils ont de l'argent, et il y a une espèce en effet d'accélération réactionnaire, pour citer un article récent, mais qui met ensemble des grands intérêts financiers privés, et au fond, ce qui est le résultat de quelque chose qui est vrai, c'est que nos démocraties libérales n'ont pas été assez efficaces face aux défis des classes moyennes. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que la démocratie libérale n'est pas assez efficace face à la question migratoire, face à la question de l'économie, de sa simplification, face à telle ou telle question, que les démocraties libérales ou les régimes autoritaires seraient plus efficaces. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est un peu le récit que certains seraient en train de construire.
Un extrait du discours prononcé par Emmanuel Macron lors de la conférence des ambassadrices et ambassadeurs à Paris le 6 janvier dernier. Jean-Yves Camus, ce concept d'international réactionnaire tient-il debout selon vous?
Ça n'est pas un concept scientifique. Je ne l'utiliserai pas dans un article scientifique parce que l'article me serait refusé. Mais c'est un concept qui a une pertinence, pour employer un vocabulaire à la mode, d'où parle Emmanuel Macron, c'est-à-dire de la sphère politique. D'ailleurs, lorsqu'en 2023 est paru le livre de mon collègue américain Patrick Dunning, qui est l'un des politistes les plus en vue dans la sphère conservatrice américaine, Barack Obama a réagi à la lecture de ce livre à peu près comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire en disant: je ne suis pas d'accord avec l'immense majorité des conclusions de l'auteur, mais il faut tout de même que nous regardions en face quelles sont les faillites de la démocratie libérale.
Julien Bisson.
Oui, dans cette prise de parole, Emmanuel Macron parle d'un article, c'est un article publié dans le Grand Continent, qui essaie justement de parler de cette internationale réactionnaire à travers la diplomatie complotiste de Javier Milei. Et il parle de cette internationale en disant: c'est une internationale de facto aux multiples facettes, géographiquement dispersées et idéologiquement hétérogènes. Alors on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui réunit finalement un Javier Milei, un Donald Trump, Giorgia Meloni ou un Jair Bolsonaro?
Alors d'abord, ce n'est pas totalement une internationale de facto, parce qu'il existe désormais des conférences organisées chaque année dans plusieurs endroits du monde par les organisateurs américains de la CPIC. Au début, donc, cette conférence des organisations politiques conservatrices était uniquement américaine, et ensuite, elle s'est déclinée. Elle s'est déclinée d'abord en Europe, avec Budapest comme lieu de rassemblement. Marine Le Pen y est passée, Éric Zemmour aussi, Giorgia Meloni, tout cela sous la houlette de Viktor Orban, qui est un acteur plus autonome qu'on ne croit dans ce jeu international. Et puis ensuite, CPIC s'est étendu à l'Amérique centrale et à l'Amérique latine, avec notamment Bolsonaro fils, le président argentin Milei, mais aussi l'ancien président guatémaltèque Jean Matei, et des personnalités très en vue du PAN, le principal parti de droite mexicain, et d'autres encore. Il y a une petite conférence asiatique qui s'est réunie à Tokyo, donc il y a des moments, je ne sais pas s'il y a une structure permanente, mais il y a en tout cas des moments de rassemblement, c'est donc un minimum structuré. Et puis, il y a, en Europe et ailleurs, des réseaux institutionnalisés. Il ne faut pas oublier que on parle souvent des groupes politiques au Parlement européen qui sont effectivement un moyen pour certains partis politiques de se retrouver et de travailler ensemble, mais il y a un concept qui est beaucoup moins exploré et qui existe dans le droit européen, c'est celui de parti politique européen, c'est-à-dire de parti dont l'objectif s'étend à l'ensemble de l'Union européenne, qui reçoit du financement de l'Union européenne et qui peut, par exemple, travailler, c'est le cas de beaucoup de ces partis, avec des fondations qui sont dotées financièrement en fonction de leurs résultats aux élections nationales et qui font un travail idéologique. Vox, par exemple, en Espagne, possède une fondation qui fait un travail assez considérable en direction du monde hispanophone.
On va parler de ce qui se passe strictement au sein de l'Union européenne, mais je voudrais revenir un instant, Jean-Yves Camus, sur ces moments de rassemblement que vous étiez en train de décrire et de relater. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y dit concrètement? Est-ce que l'idée, c'est juste de se rassembler parce qu'on aime bien se voir, ou un agenda plus clair, plus précis et défini?
Je pense que, à défaut d'agenda, au sens d'agenda politique, nous allons faire ceci, étape 1, nous allons faire ceci, étape 2, il y a du brainstorming, il y a des experts qui rencontrent des élus, il y a des universitaires qui rencontrent des candidats, ou des journalistes d'ailleurs. Il y a des publications qui naissent, par exemple le European Conservative, que l'on commence à trouver dans certains kiosques à Bruxelles et je crois à Paris, et qui essayent de diffuser quelque chose qui ressemble à une colonne vertébrale commune. Alors, des conservateurs, attention, des conservateurs. Ensuite, il y a des partis qui sont bien au-delà du conservatisme et qui ont leur propre réseau et leur propre publication. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la recherche idéologique d'une alternative à la démocratie libérale. Certains ont appelé cela la démocratie libérale, illibérale, pour reprendre le mot de Farid Zakaria. Mais une fois qu'on a dit qu'elle était illibérale, on n'a pas totalement résolu le problème, parce qu'il demeure quand même des élections. Ces élections ne sont pas totalement truquées, c'est le moins qu'on puisse dire. Il demeure quand même des partis politiques qui subissent plus ou moins de pression. Mais la démocratie libérale, c'est pas la dictature. C'est un changement dans l'équilibre des pouvoirs qui caractérise la démocratie libérale et qui, notamment, a comme pierre angulaire l'indépendance de la justice. Une justice indépendante des pressions de l'exécutif, une séparation entre l'exécutif et le législatif. Et on voit bien, dans la Pologne, gouvernée par la droite, ou dans la Hongrie, M. Orban, que le modèle est différent. C'est-à-dire que la théorie selon laquelle la démocratie libérale meurt par le gouvernement des juges, je mets évidemment des guillemets, mais c'est l'expression qui est habituellement employée par eux, est une idée extrêmement à la mode et qui se traduit politiquement par un certain nombre de nominations pour s'assurer le contrôle d'une Cour suprême, par un certain nombre de tentatives de mise au pas de l'indépendance de la magistrature, par des pressions sur la presse et par tout un système aussi de clientélisme clanique qui s'étend jusqu'au monde économique. En Hongrie, c'est un petit peu comme ça que ça se passe.
Vous êtes interrogé de nouveau par le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1, Julien Bisson.
Oui, vous parliez de colonne vertébrale qui se construit dans ces rencontres. On a du mal parfois à saisir quelles peuvent être les convergences idéologiques entre les populismes nationalistes européens et puis, par exemple, outre-Atlantique, des mouvements qui paraissent beaucoup plus libertariens et ultra-libéraux. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir finalement à travailler ensemble?
Ils travaillent ensemble avant tout parce qu'ils ont des ennemis communs. C'est un mariage de raison. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure, le président Macron évoquait la puissance économique. L'argent. On ne fait pas de la politique sans argent. Les campagnes politiques coûtent de plus en plus cher. Quand vous avez quelqu'un comme Elon Musk qui dépense sans compter 250 millions de dollars, je crois, rien que pour la campagne de Donald Trump, ça vous fait réfléchir, peut-être ça vous ouvre des horizons. Et ça vous rend plus conciliant sur la colonne vertébrale idéologique, si tant est chez Elon Musk qu'il y en ait une, et je crois qu'elle est relativement légère.
À propos de mariage d'intérêt, Jean-Yves Camus, je voudrais que l'on parle d'un rapprochement qui n'est pas encore un mariage entre Elon Musk et Alice Weidel, celle qui dirige l'AFD, le parti d'extrême droite allemand. L'un et l'autre ont échangé il y a quelques jours sur Twitter, c'était le 9 janvier dernier.
Beaucoup de médias veulent dépeindre l'AFD comme étant d'extrême droite, comme étant associé au nazisme ou à quelque chose comme ça. Pourriez-vous répondre à cette inquiétude ?
J'aimerais, en tant qu'économiste, apporter un peu de lumière sur cette idée. Quand on parle d'Hitler et des nationaux-socialistes à l'époque du Troisième Reich, on emploie le terme « national-socialisme », qui contient le mot « socialisme ».
Oui, et ils ont nationalisé l'industrie, c'est fou.
Oui, absolument. C'était un communiste et il se considérait lui-même comme un socialiste et ils ont nationalisé toute l'industrie, vous l'avez dit. Et le plus grand succès de ses adversaires à cette terrible époque a été de qualifier Adolf Hitler d'homme de droite et de conservateur. Il était exactement le contraire.
Un échange absolument délirant, il faut le dire. D'ailleurs, on précise évidemment qu'Adolf Hitler n'a jamais été socialiste. Il suffit pour cela de lire Le Monde nazi de Chapoutot, Ingrao, Patin, qui revient très bien sur cette histoire. Néanmoins, Jean-Yves Camus, comment est-ce que vous analysez vous-même cet échange? Et au-delà d'ailleurs, les tentatives ou les ingérences même d'Elon Musk dans différentes politiques nationales européennes aujourd'hui?
Et cet échange montre, j'ai essayé de prendre le problème de haut, la véracité d'une affirmation de Hegel qui disait « à ceux dont l'esprit se contente, on mesure l'étendue de sa perte ». C'est-à-dire qu'on est là au niveau zéro de la réflexion politique. L'argument selon lequel Adolf Hitler était un socialiste est un argument rebattu. D'ailleurs, on le sait, finalement, la collaboration, quand on y regarde bien, y compris en France, elle a été essentiellement socialiste. Marcel Déat venait de là, et Jacques Doriot venant du Parti communiste, eh bien les communistes ont collaboré tout pareil. Bon, ça c'est une antienne qui est déversée depuis maintenant pratiquement 80 ans par tous ceux qui cherchent à s'exonérer de la vérité historique que Chapoutot et Ingrao ont très justement décrite.
Il n'y a pas de socialisme au NSDAP.
Non, mais il n'y a pas de socialisme au NSDAP. Le projet totalitaire du parti nazi commandait que l'économie soit en grande partie nationalisée pour mobiliser au service d'une idéologie et d'un effort de guerre l'ensemble des forces vives de la nation allemande. Voilà.
Bon, mais sur Elon Musk, alors comment est-ce que vous analysez, vous, cette ingérence en Allemagne, on l'a dit, mais aussi en Grande-Bretagne, en Italie et même certaines décisions de justice remises en cause par lui-même en Roumanie?
Par l'hubris.
Uniquement.
Tout simplement.
Pas par
l'hubris. Je suis pas biographe d'Elon Musk. Je pense que si on creuse un petit peu dans sa biographie, on verra un grand-père qui a quand même été engagé idéologiquement au Canada dans un parti, c'est absolument génial, qui s'appelait le Parti des Technocratiques. Le Parti Technocratique était celui qui, au Canada, avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, défendait l'idée que la démocratie, finalement, serait bien mieux administrée par des sachants et des techniciens que par les politiques. On retrouve quand même un petit peu le modèle de l'État-entreprise d'Elon Musk. Et puis, c'est quelqu'un qui quitte l'Afrique du Sud en 1988. Nelson Mandela est libéré en 1990. C'est l'extrême fin du régime sud-africain d'apartheid. Il quitte donc son pays après avoir étudié, être né à Pretoria et avoir étudié en Afrique du Sud. Peut-être que finalement, le modèle sud-africain a laissé des traces. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que voilà un nationaliste, ou du moins quelqu'un qui donne des gages à des partis nationalistes, et qui est éminemment cosmopolite. Il est d'abord cosmopolite par sa famille, qui a des racines suisse-allemandes, des racines africaines, des racines britanniques. Il est né en Afrique du Sud, il part émigrer au Canada, il fait de la politique aux États-Unis. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui investit dans un réseau social où, de toute façon, tout est ingérence, parce que vous voyez défiler sur X, comme auparavant sur Twitter d'ailleurs, des informations auxquelles vous pouvez réagir en temps réel et qui concernent des pays dont vous ne savez rien. Moi, si je lis là, à la minute, quelque chose sur une décision du gouvernement indien, je peux effectivement réagir et donc m'ingérer dans une décision à laquelle je ne comprends strictement rien. Et l'ensemble des utilisateurs mondialisés de ce réseau lui-même mondial peuvent s'exprimer sur tout et sur rien. Elon Musk, c'est l'homme sans frontières. C'est l'homme sans frontières qui non seulement est à la tête d'un réseau social sans frontières, mais dont le monde n'a quasiment plus de frontières, puisque, je le répète, un de ses objectifs, c'est quand même la vie sur Mars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en dehors du monde d'Elon Musk. Il n'y a plus rien en dehors du monde fini que nous connaissons, hein, la Terre. Voilà. Et c'est un univers fini, lui, il est déjà au-delà. Il est donc dans une démesure et dans une forme d'hubris qui est propre d'ailleurs à beaucoup de ces populistes, qui sont des hommes sans surmoi.
Vous n'êtes pas biographe d'Elon Musk, mais on sent quand même quelques velléités, hein, Jean-Yves Camus. Julien Bisson vous interroge.
Jean-Yves Camus, avant d'aller sur Mars, Elon Musk va affronter une nouvelle aventure qui est de rejoindre l'administration Trump dans quelques jours. Quel est l'intérêt profond qu'il peut avoir à déstabiliser des gouvernements européens à travers le soutien, que ce soit Réforme UK pour la Grande-Bretagne, à l'AFD en Allemagne? Quel peut être l'intérêt à avoir à déstabiliser des gouvernements qui sont a priori les partenaires naturels des États-Unis?
Alors, votre question amène à une autre. Elon Musk aura-t-il, après l'investiture de Donald Trump, la même latitude pour s'exprimer, comme on vient de l'entendre, que maintenant, où au fond, Donald Trump est le president-elect, mais il n'est pas encore aux manettes. Parce que Elon Musk va lui aussi faire partie de cette administration. Il va faire partie de cette administration avec un rang un peu bâtard, qui n'est pas tout à fait celui ministre, et il a déjà, semble-t-il, revu ses ambitions budgétaires à la baisse, parce que quand même, on ne peut pas faire de l'État américain une micro-entreprise. Hein,
c'est non, pas mais son pouvoir véritable, c'est l'accès direct au président élu.
Alors, son pouvoir véritable, c'est l'accès direct au président élu aujourd'hui.
Pour l'instant, bien sûr.
On verra maintenant, l'administration de la Maison-Blanche est assez pléthorique, et elle peut effectivement circonvenir, rappelez-vous de l'affaire du Watergate, elle peut effectivement circonvenir le président et les membres du cabinet. La question centrale, c'est y aura-t-il de la place dans une même administration, pendant toute la durée du mandat, pour deux égaux aussi surdimensionné que Donald Trump et Elon Musk, l'un pouvant mettre en danger l'autre. Et celui qui peut mettre en danger l'autre, c'est Elon Musk, parce que c'est lui qui a la puissance financière, c'est lui qui a la maîtrise du réseau, c'est lui qui a la maîtrise aussi de plusieurs moyens de communication satellitaire, dont on a vu que même après la crise de Mayotte, ils étaient indispensables, même à nous. Donc, celui qui peut faire chanter l'autre, ou celui qui peut essayer de prendre la main sur l'autre, c'est Elon Musk. Maintenant, le président Trump n'est pas d'une nature extrêmement conciliante avec ceux qui tentent de lui prendre un peu de lumière.
Je reviens un instant tout de même sur ce concept politique d'international réactionnaire. Jean-Yves Camus, en citant Erwan Lecoeur, il s'exprimait le 8 janvier dans 20 minutes et disait, je cite, « On observe depuis l'apparition d'Internet une internationalisation des nationalismes autoritaires, historiquement en désaccord et même en conflit, qui vont échanger des idées, des éléments de langage, des contacts. C'est l'apparition, dit-il, de la fachosphère. » Fin de citation. Est-ce que cette tendance est en train de s'accélérer, notamment par le truchement de l'action d'Elon Musk?
Oui, elle s'accélère, mais elle ne la crée pas. C'est-à-dire que je mets en garde contre l'illusion selon laquelle l'usage généralisé des réseaux sociaux et d'Internet aurait créé ex nihilo un phénomène. Vous savez, dans les années 80, ces mouvements échangeaient par d'autres voies. Alors ça a commencé tout petit, avec les balbutiements d'Internet, mais avant on s'échangeait de la correspondance. On s'échangeait des publications par la poste. Et il n'y a jamais eu autant de réunions des internationales, je reprends le vocabulaire journalistique, néo-fascistes, néo-nazis ou réactionnaires, que lorsque les gens se rencontraient, s'écrivaient. Et finalement, après, c'est une question de changement de dimension, c'est une question de nombre d'utilisateurs. Ce qui se passait dans le tout petit cénacle est désormais beaucoup plus large, beaucoup plus élargi et beaucoup plus influent, parce que les réseaux sociaux touchent tout le monde. à l'époque de la correspondance, il y avait que le destinataire et celui qui écrivait.
Pas de création, une accélération, la scène politique européenne l'illustre parfaitement.
Avant le Conseil européen, les principaux leaders politiques du groupe parlementaire d'extrême droite Patriote pour l'Europe se sont réunis à Bruxelles. Sans surprise, l'immigration était au centre des discussions. L'accord controversé sur les migrants entre l'Italie et l'Albanie semble inspirer certains, comme le néerlandais Geert Wilders.
Mon parti envisage, après avoir visité l'Ouganda et l'Afrique, d'y envoyer des personnes après les procédures en vigueur aux Pays-Bas, au lieu de les laisser illégalement dans notre pays. Mon gouvernement élabore des plans pour rendre la législation beaucoup plus sévère.
L'accord conclu entre Rome et Tirana permet d'envoyer en Albanie, pays non membre de l'UE, les personnes arrivées illégalement en Italie. Elles seront placées dans des centres en attendant l'issue de leur demande d'asile. Viktor Orban, qui ne cache pas son aversion pour la politique migratoire de l'UE, salue cette initiative.
C'est un bon accord. Félicitations.
Good one. Congratulations.
Un reportage d'Euronews du 17 octobre 2024, Julien Bisson.
Oui, on voit que, en effet, ces alliances extrême droite existaient déjà en Europe. Qu'est-ce que l'arrivée de cette nouvelle présidence Trump va changer pour elle? Est-ce que c'est pour elle, ça va être un tremplin? Ou au contraire, est-ce que finalement, ça ne va pas forcément leur rendre service?
C'est une question très complexe. D'abord, tout va dépendre de l'attitude du Donald Trump de l'après-investiture. Est-ce qu'il va se mettre dans la peau d'un président qui va malgré tout écouter son administration, notamment celle des affaires étrangères, le département d'État, ou est-ce qu'il va continuer sur une ligne qui s'est incontestablement radicalisée depuis son premier mandat? Parce que si c'est une ligne aussi radicalisée que celle de la campagne, avec des déclarations de ministres dont certains sont quand même assez particuliers, je suis pas sûr que ça rende service. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a une dynamique propre à ces partis européens, et c'est sans doute l'erreur qu'a fait Steve Bannon, qui lui aussi a essayé il y a quelques années d'insuffler un peu d'argent et une structure au sein des mouvements nationalistes et populistes européens.
Steve Bannon est arrivé, le grand conseiller de Donald Trump, notamment durant son premier mandat.
Steve Bannon est arrivé et a expliqué au FPE autrichien, qui avait déjà participé à un gouvernement, à Marine Le Pen, qui était déjà très haut, et à des partis qui avaient eux aussi participé à des coalitions, ou qui étaient quand même dans les urnes assez haut, écoutez, je vais vous apprendre comment faire. Non, mais en fait, il faisait très bien sans lui. C'est pour ça que l'aventure a échoué. Avec Elon Musk, c'est un peu différent, parce que là, il y a la puissance de feu, si j'ose dire, des réseaux sociaux. Mais finalement, se mettre dans la roue de Donald Trump, être en extase devant Donald Trump, c'est même pas forcément nécessaire, parce que les dynamiques qui font les succès électoraux de l'AFD, du RN, de Madame Meloni, de Viktor Orban, sont des dynamiques spécifique à chaque État, spécifique aussi au système électoral quand même qui est appliqué dans ces États. Il y a effectivement des points communs entre ces partis, notamment sur la question migratoire et sur la crise identitaire profonde que vit l'Europe. Mais les solutions américaines, parce qu'elles sont américaines et seulement pour ça, sont souvent suspectes aux yeux des nationalistes. Vous savez, il y a pas pour tous. Madame Meloni est beaucoup plus pro-OTAN que d'autres, mais notamment chez les plus radicaux des nationalistes européens, l'Amérique, c'est quand même un peu le symbole du mal. Ça reste la puissance qui a défait les puissances de l'Axe, ça reste le melting pot, la puissance financière de Wall Street, les multinationales, bref, tout ce qu'ils récusent.
Quels sont les relais en France de cette internationale réactionnaire? On sait par exemple qu'Éric Zemmour a été invité à l'investiture de Donald Trump. Il a annoncé qu'il s'y rendrait. Est-ce que c'est plutôt pour vous, justement, Éric Zemmour et son parti Reconquête, ou bien c'est plutôt le Rassemblement National d'une façon plus traditionnelle et classique?
Faut pas raisonner en termes de relais. Faut raisonner en termes de... Ces gens pensent que la droite libérale et conservatrice classique a été le fossoyeur de la véritable démocratie, qui est pour eux la démocratie référendaire, la démocratie directe, et ils vont naturellement vers ceux qui anticipent leur succès futur.
C'est de l'opportunisme pur.
Non, c'est pas de l'opportunisme, c'est de la conviction. C'est-à-dire qu'il existe un tronc idéologique commun à ces gens, mais il faut pas raisonner en termes d'il y a un donneur d'ordre, il y a des relais, et il y a des gens qui, en France, sont les caisses de résonance de tout cela. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, parce que quand il y a le président Trump, Jair Bolsonaro, même s'il a été ensuite battu, Milei et un certain nombre d'autres, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une tectonique à l'intérieur des droites, et que, incontestablement, cette tectonique, elle est plutôt en faveur des antilibéraux.
Merci beaucoup Jean-Yves Camus. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste de l'extrême droite et vous nous avez éclairé ce soir sur ce concept tout politique d'international réactionnaire. Julien Bisson, qu'est-ce que l'on trouve cette semaine dans le fabuleux hebdomadaire Le 1 ?
Eh bien, on pose la question, de quoi héritons-nous ? Patrimoine, génétique, traumatisme ? Sommes-nous déterminés par ce qu'on nous a transmis ?
Les questions, donc, dans Le 1 que l'on peut déplier tout au long de la semaine. Merci à vous deux.